L'idée vraiment de cette heure, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'est le portage salarial, mais à travers des gens qui le vivent au quotidien ou qui l'ont vécu au quotidien et qui du coup se sont probablement posé les mêmes questions que vous, vous êtes en train de vous poser dans votre choix d'activité future ou dans votre choix de statut. Il va y avoir une première partie donc avec Yves Roussin, qui est le fondateur de Détalent, qui est une société de portage. Bonjour Yves. Qui va nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est, histoire qu'on ait la même base de dialogue et qu'on ait surtout les mêmes mots pour qu'on puisse se comprendre plus facilement. Ensuite, on va avoir une première partie avec le témoignage majoritairement, on va dire, de Cédric Besson, qui est ici, de Caroline Bringand, qui sont passés par le portage, qui ont monté une activité grâce au portage, qui maintenant, ils vont nous expliquer ça, font peut-être autre chose ou pas forcément, ont un autre statut. Mais voilà, se sont servis du portage à un moment donné, on va dire. Et en troisième partie de notre heure, on se concentrera sur, allez, on va dire, la notoriété du portage. Comment est perçu le portage par des entreprises qui peuvent être les futurs clients du consultant, les futurs clients de l'indépendant, de l'autonome. Ça, on verra aussi pour la clarification des termes. Sans plus tarder, on commence donc par la première partie, ce qui est... Allez, c'est Yves, vous allez ouvrir la danse. Aujourd'hui, c'est quoi la carte d'identité de l'autonomie en France, en quelques chiffres, histoire qu'on parte sur les mêmes bases.
Oui, alors on a essayé en quelques chiffres, je vais essayer de régler le micro comme il faut, en quelques chiffres simples de faire une cartographie de la création d'entreprise. Alors, le premier chiffre, il est sur votre gauche, on va dire que 50% des actifs seraient intéressés par la création d'entreprise. Donc la source de ce 50%, c'était un article dans l'APEC très récent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne va pas sûrement créer une entreprise, mais ça veut dire que les gens ont une envie de créer une entreprise, ou surtout une mobilité intellectuelle. Alors les éléments qui sont attachés à ces 50%-là, on peut considérer que ce sont des meilleures conditions de travail, des souhaits d'évolution personnelle, un maintien dans l'emploi pour certains, et surtout un développement de projet. Souvent, le terme de création d'entreprise pour créer son propre emploi ou pour développer un complément de revenu. Donc voilà le premier chiffre clé. On va passer sur le second, qui est à droite. Et ça, c'est une statistique sur la durée de vie des TPE. Donc pareil, qui ressort d'une analyse qui a été menée par la CGPME via le cabinet Altares, qui est une étude de 2015. 75% des TPE arrêtent au terme des 2 ans. Voilà, donc on ne va pas tomber dans le pessimisme, voilà, mais c'est manifestement une statistique. Alors les éléments qui sont rattachés à ces 75%, ils sont de 3 niveaux. L'isolement, voilà, le créateur est seul, c'est souvent un terme qui revient. Le deuxième, c'est les problèmes financiers. Voilà, problèmes financiers, on peut préciser un petit peu sans rentrer dans les détails, mais en général, ça s'appelle les délais de paiement. Et ensuite... des problèmes financiers et ou de gestion, mais c'est vraiment les problèmes de financiers qui sont en premier lieu. Et enfin, le troisième terme qui arrive, c'est un projet qui est mal cadré. Ça peut arriver, créer un projet s'arrête, c'est la vie, c'est vraiment la vie d'une entreprise. Pour compléter ces 2 chiffres clés, on est parti d'une étude de la PCE, donc c'est l'Agence pour la création d'entreprises, qui a fait des statistiques, et qui a fait des statistiques sur la création d'entreprises en 2015. Donc sur la base des sources, de la source INSEE. Donc sur l'ensemble des créations d'entreprises en 2015, il y a 43% de créations en micro-entrepreneurs, donc qui est le terme nouveau pour auto-entrepreneurs. Il y a 25% de sociétés unipersonnelles, ça veut dire que dans ces sociétés-là, il y a une seule personne, donc on revient bien dans la logique de créer son emploi, ou de créer son activité. Un chiffre très intéressant, c'est que 82% des sociétés créées n'emploient pas de salariés aussi bien à leur démarrage qu'ensuite. Donc une fois de plus, on est vraiment, la création d'entreprise est vraiment là pour aider à développer un projet personnel. Et enfin, pour revenir à l'objet un peu du portage salarial, 23% des sociétés créées ont une activité de prestation de services aux entreprises, voilà, qui est globalement un des objets du portage salarial. Donc, les grands chiffres que l'on souhaite dire, nous, sur la partie création d'entreprise, l'idée étant de rattacher tout ça à la gestion d'un projet, celui qui peut vous animer, vous, en tant que visiteur aujourd'hui du salon SME.
Alors, si on s'arrête sur ce dernier chiffre-là de 23%, et qu'on, allez, on approche le zoom, on se rapproche du portage salarial. La question est très bête, elle est très simple. Je sais que Yves, vous l'avez répété. C'est quoi le portage salarial? Si vous avez à expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, comment on définit aujourd'hui le portage salarial?
Effectivement, on a beaucoup travaillé et je dois dire que j'ai fait Tartuffe ou j'ai fait du Molière parce qu'on fait effectivement du portage salarial depuis 2003 et c'est jamais simple, ça peut paraître surprenant, mais c'est jamais simple de résumer en une phrase complète ce qu'on fait. Et c'est rare, mais j'ai des notes. Voilà. Alors, pour vous dire ce qu'est le portage salarial. Alors, je vais lire. Alors, l'outil portage salarial, parce que c'est un outil, vous permet de gérer et de développer votre activité de professionnel autonome, ce terme très important, en utilisant le statut sécurisé du salarié. Voilà.
Donc là-dedans, il y a des mots-clés. Ça, vous validez, messieurs, dames? Là-dedans, il y a des mots-clés. On va revenir aussi dessus. Le portage, aujourd'hui, c'est un outil qui concerne, si on passe au slide suivant, qui concerne combien de personnes, qui concerne combien de structures?
Alors, on va aller de nouveau dans les chiffres. Wow, super, il y a eu un décalage dans le slide, voilà, c'est les last minutes. Donc les chiffres que je vais vous donner sur le portage salarial sont issus du syndicat du portage salarial, il s'appelle le PEPS, que je vous engage à regarder si jamais vous allez plus loin dans votre démarche, dans une logique d'information. Alors aujourd'hui, le portage salarial représente environ 200 sociétés, environ 70 000 intervenants, pour un chiffre d'affaires cumulé de la profession de 700 millions d'euros, avec une croissance annuelle de 15%. Ce chiffre-là étant syndical, me semble un petit peu élevé, mais bon. Donc ça, ce sont sur les structures de portage salarial aujourd'hui présentes en France, sur les portés, donc les professionnels autonomes. Il y a 75% de cadres dans le portage salarial. Alors la notion de cadre est ambiguë dans le portage salarial, puisque le statut n'existe pas, mais on peut dire plutôt que les gens qui vont faire du portage salarial avaient préalablement un statut de cadre. Dans la segmentation hommes-femmes, donc il y a 42% de femmes et 58% d'hommes, presque une petite parité. Un chiffre important, c'est au niveau de la rémunération, donc on le verra plus tard, mais dans le portage salarial, il y a des conditions d'accès, notamment un minimum de rémunération qui est conventionnellement fixé chaque année. Et 91%, donc c'est-à-dire la majorité des personnes en portage salarial, ont une rémunération mensuelle qui est supérieure au minimum conventionnel, qui est, pour information, de 2 900 euros brut en 2016. Et enfin, c'est sur la catégorie des tranches d'âge, 53% des portés ont 45 ans et plus. Donc évidemment, on est dans la moyenne, ce qui veut dire que dans le panel des portés, et notamment dans toute structure de portage salarial, il y a effectivement un pic sur les 45 ans. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui débutent en portage salarial, comme il y a des personnes qui terminent leur carrière en portage salarial. On a eu la chance d'avoir des retraités alors qu'on était une toute jeune structure, il y a quelques années.
On va continuer à avancer. On va sauter le slide suivant, puisque justement, on parle de la répartition, des portées. On pourra y revenir si on a un petit peu de temps à la fin. Mais je voudrais qu'on se concentre justement sur les candidats au portage. Le portage, c'est fait pour qui? Si je me fais l'avocat du diable, moi, je suis une infirmière, je veux être indépendante, je me lance dans le portage, je peux?
Pas forcément. Non, le portage a effectivement une logique de métier qui sont admissibles. Donc si on revient dans les textes, de façon très rapide, le texte sur le portage salarial qui date de 2015 dit que le portage salarial est ouvert, on va dire, à tous les métiers non réglementés, en excluant tous les métiers des services à la personne qui font partie d'une convention collective qui est propre. Donc le portage salarial, aujourd'hui, peut s'adapter à tous ces métiers, sauf les métiers réglementés, sauf les métiers des services à la personne. Ensuite, c'est quelle typologie de candidats aujourd'hui et historiquement peuvent se lancer dans le portage salarial? Évidemment, toutes les personnes qui sont demandeuses d'emploi, toujours dans une logique, comme on l'a vu précédemment dans les slides précédentes, de vouloir maintenir leur employabilité et créer leur propre emploi, tout en relevant du statut de la sécurité sociale avec le statut de salarié. Donc ça, c'est le régime du portage salarial qui apporte cette sécurité-là et c'est qui est extrêmement importante, qui est la base du modèle portage salarial. Pour des indépendants aussi, c'est à un moment donné de changer d'activité. Donc quand je parle d'indépendants, ce sont des personnes qui sont inscrites sur des statuts qui peuvent être auto-entreprise, profession libérale, SARL même. Pour certaines d'entre elles, elles changent de statut pour venir sur un statut de salarié d'une part, qui les rassure, qui est sécurisant, et puis surtout qui les décharge des tâches administratives et qui ramène au point précédent qu'on a vu sur les risques financiers, en fin de compte. Le fait de s'attacher à une structure de portage salarial, ben, ça permet de sécuriser son activité souvent, puisque la structure de portage salarial, elle a des outils, elle a des moyens qu'une entreprise, qu'un individu tout seul en entreprise ne peut pas avoir. Par exemple, nous, il nous arrive d'aller défendre des dossiers en contentieux au tribunal de commerce pour des consultants. Voilà, on va chercher l'argent des consultants quand le client ne veut pas payer. C'est rare, mais ça nous arrive. Et ça, c'est un service qui fait partie du portage salarial, qui va dans le sens aussi de sécuriser en plus du statut de salarié. Donc, de façon assez marginale, il y a des jeunes diplômés. Ça nous arrive. On a des jeunes diplômés qui, à la suite d'un stage, à la suite d'une rencontre avec une entreprise, peuvent démarrer ou continuer le stage en portage salarial et peuvent démarrer leur activité en portage salarial. Voilà. Donc, de la même façon, on n'est pas dans le pic de la gaussienne, on est au début. Voilà. Enfin, le public qui est typiquement le public du SME aujourd'hui, c'est des futurs créateurs d'entreprise, c'est-à-dire des personnes qui veulent traiter, qui ont un projet et qui veulent tester leur projet sans risque. Voilà. Mais il faut que leur projet s'adapte au portage salarial. Et puis enfin, tous les professionnels qui veulent, à un moment donné, qui sont dans ce qu'on dit dans l'organigramme et qui ont un petit peu marre des couches d'organigramme et un petit peu marre des relations de l'entreprise. Si, si, ça arrive.
Non, ça n'arrive pas, ça.
Ça arrive assez souvent. Et qui souhaitent valoriser au mieux leurs compétences et indépendamment de la hiérarchie qui peut y avoir autour d'eux. Donc, ils recherchent une vraie autonomie, une vraie liberté dans l'exercice de leur profession. Et enfin, pour terminer, en dessous des jeunes diplômés, on a les retraités qui veulent continuer à avoir une activité. Voilà. Donc, je pense que là, on a vu, en gros, c'est tout le panel des gens qui peuvent aujourd'hui rechercher un emploi, qui peuvent aller dans le portage salarial, chacun ayant des spécificités bien particulières et chacun recherchant le statut du salarié qui est protecteur.
Impeccable. Le slide suivant, on va passer dessus assez rapidement parce qu'on l'a déjà évoqué sur le périmètre des métiers, justement. Donc, j'ai compris, il faut apporter une compétence en plus à l'entreprise.
Oui, je pense que sur les métiers, il faut voir deux choses. Donc, il y a ce qui est écrit dans les textes. Donc, il faut exclure les activités réglementaires et rester en dehors des métiers et des services à la personne. En plus, il faut rattacher à ça un autre élément réglementaire qui sont les cas de recours de l'entreprise cliente au portage salarial. Alors, de la même façon, mais c'est un texte que je vais lire, le recours à un salarié porté peut se faire pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. Donc, si on mélange les deux, on a en fin de compte le périmètre métier. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui, Julie, tu me parlais tout à l'heure d'une infirmière, non, un métier, une fonction ne se fait pas en portage salarial. Par exemple, un cabinet comptable ne pourra pas avoir un comptable en portage salarial. Voilà. Par contre, un cabinet comptable pourra avoir un ancien comptable qui vient en conseil pour optimiser leur système d'information, leur relation avec leurs clients ou des choses comme ça. Mais la fonction ne fait pas partie de possibilités, des cas de recours du portage salarial. Et enfin, de la même façon qu'on a fait des grands chiffres, et là on considère qu'il y a plus de 200 métiers aujourd'hui en portage salarial. Donc ça veut dire que toutes les fonctions de l'entreprise, et donc on en revient bien à la définition du portage salarial, je dirais que tous les métiers de l'entreprise, en tenant bien compte des exclusions, peuvent être représentés en portage salarial.
On va passer à la question qui fâche, on va dire. Ça a l'air super séduisant, le portage, ça a l'air super simple. Ça me rapporte quoi comme sous au bout d'un moment? Est-ce que au niveau des revenus, c'est quand même une question fondamentale quand on se lance. Comment je vais vivre?
Alors, on est dans un des éléments fondamentaux du portage salarial. Et donc, on a fait, voilà, pour éviter de rentrer dans des débats compliqués, on a essayé de faire, et par rapport au public, public qui visite le salon aujourd'hui de faire un petit tableau qui reprend les statuts les plus utilisés quand on veut créer sa société pour son propre projet. Donc sur la gauche, on voit les statuts, donc l'entreprise individuelle, micro-entrepreneur donc qui est l'auto-entrepreneur. Les autres statuts qui sont un peu plus complexes, c'est-à-dire dans lesquels il faut effectivement faire des statuts papier. Et enfin, le portage salarial. Donc sur la droite, on a exprimé les revenus hors impôts en pourcentage du chiffre d'affaires généré. On est entreprise, donc on parle de chiffre d'affaires, et effectivement on est entreprise et on parle de revenus. Donc l'entreprise individuelle, les revenus se situent entre 60 et 55% de ce qu'on facture hors impôts. Le micro-entreprise, le chiffre est un petit peu arrondi, on est à 76% avec des limites fortes dans l'exercice. Dans le cas des sociétés dans lesquelles il y a une seule personne ou un seul associé, on est dans les mêmes tranches, on est entre 60 et 55%. Dans le portage salarial, la rémunération, elle, se situe entre 48 et 58%. Évidemment, l'écart peut sembler important, il est tout à fait explicable, on y reviendra plus tard s'il y a des questions dans la salle. Et l'imposition, c'est important, mais l'imposition, généralement, elle revient sur l'imposition de l'IRP, votre imposition personnelle, souvent dans l'entreprise individuelle, souvent en micro-entrepreneur. Sur les autres statuts, c'est un peu plus complexe, ça peut être sur une imposition personnelle ou sur des bénéfices qui sont imposables. Donc l'idée dans le portage salarial, c'est qu'il est compétitif en termes de revenus, tout en préservant un statut sécurisé, c'est-à-dire qu'il est le seul dans cette liste-là à garantir aux personnes des cotisations en retraite, des cotisations en prévoyance, des cotisations à Pôle emploi, l'accès à la formation, qui est un pan extrêmement important avec la création du CPF aujourd'hui, et qui permet à la personne de se décharger intégralement de toute la gestion avec tous les services dont on a pu parler tout à l'heure. Donc effectivement, le portage salarial amène une vraie efficacité et technique et financière.
Bon, impeccable. On va s'arrêter là pour la présentation et on va donner la parole à nos consultants de choc, nos experts de choc, on va appeler ça comme ça. Merci beaucoup, Yves. Restez dans les parages, on aura besoin encore, je pense, de quelques autres slides. Alors, tout bêtement, on va commencer par faire les présentations. Honneur aux dames. Alors, Caroline Bringand, vous êtes experte européenne, ergonome, enfin expert en facteurs humains, on va appeler ça comme ça. Voilà, mais justement, c'est un peu trop large pour nous.
Ah, voulez-vous que je précise là tout de suite ?
Un petit peu.
Bon, d'accord. Alors, bonjour à tous déjà. Oui, alors, je suis ergonome européen, donc c'est un titre, hein, et expert, effectivement, j'interviens dans plusieurs pays en Europe. Alors, facteurs humains et technologie. Et du coup, oh là là, mon Dieu, tout d'un coup, je suis perdue. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je fais.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline ?
Non, mais donc j'interviens dans des entreprises qui ont des problématiques, effectivement, d'organisation, d'outils qui impactent le travail ou qui impactent la santé. Je suis sur cette trilogie à la fois, facteurs humains, technologie et santé au travail.
Dans la présentation, ça nous va. Dans la présentation qu'a fait Yves, vous vous êtes reconnue à un moment.
Ah ben non, tout le temps, oui, il n'y a pas de problème, on est complètement là-dedans.
Qu'est-ce qui vous a amené à passer le pas et à devenir porté, à vous orienter vers le portage salarial, vous ?
Alors, c'est très simple. Il y a 15 ans, donc enfin en 2000, ou un tout petit peu avant 2000, j'ai été licenciée. J'étais salariée, donc j'ai jamais monté mon entreprise auparavant. J'ai repris des études et j'ai changé de formation, parce que j'étais avant dans la communication, je suis devenue ergonome, diplômée de la Sorbonne. Et puis, sans me préoccuper vraiment de la suite. La suite, me paraissait évident que j'allais intégrer une entreprise et, en tant que salarié. Enfin, la question ne se posait même pas, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, en fait, non, pas du tout. Ça s'est posé parce que, étant quand même très intéressée par la technologie, Air France, à ce moment-là, demande à la Sorbonne d'avoir quelqu'un, un jeune expert, pour intervenir, et là, pendant 6 mois, 1 an. Et là, il n'était même pas question d'intégrer la boîte. Il fallait trouver une façon de faire. Alors là, c'est posé la question, je ne savais vraiment pas comment faire. Et c'est un de leurs clients, qui était référencé chez eux, qui à ce moment-là m'a porté. Vraiment, il a fait comme si je faisais partie, mais en accord avec Air France, Air France Cargo. Et donc j'ai pu conduire cette expertise. Bon, ok, mais je me suis dit, mais c'est pas viable à long terme, comment ça se passe? Alors après, j'ai eu un autre second contrat pour Alstom, Alstom Transport, et là, rebelote. Puis moi, j'avais toujours pas mûri dans ma tête, j'avais pas du tout vu, même regardé quelles étaient les perspectives. Et donc Alstom me dit, oui, mais là, c'est pour 3 mois, est-ce que vous avez votre boîte? Je dis, bah non, j'ai rien du tout.
Et voilà, dans ces cas-là, on se sent un peu bête quand on a déjà un client et pas encore de statut.
On se sent pas bête, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut. Moi, j'étais plus focalisée sur l'expertise et moins sur la façon de commercialiser cette expertise. Donc Alstom me dit, écoutez, vous avez passé par Manpower, on les connaît. Je dis, bon, on ne peut pas quand même passer d'un truc à l'autre, il faut quand même quelque chose de stable. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Yves Roussin, donc ça remonte, c'était au tout début, hein, tu as commencé en 2003-2004, ça devait être en 2005. Qui commençait sa société de portage, je disais, mais c'est quoi ce truc? Et le truc, bah, j'ai baigné là-dedans pendant une dizaine d'années, parce que j'ai trouvé que c'était très... Au moins, j'avais une entité, c'était confortable. Et voilà comment je suis passée au portage, par un joli accident, une jolie rencontre.
Alors, on va demander à votre voisin, Cédric Besson. Pareil, un petit peu, le portage, vous en aviez entendu parler avant. C'était quoi vos principales appréhensions, on va dire?
Bonjour à tous.
Oui, bonjour. Et pareil, vous faites quoi dans la vie?
Alors, donc moi, je suis consultant aussi. Je suis chef de projet, chef de produit, spécialisé dans les médias et la transformation des médias sous l'effet du digital. Donc, j'ai commencé ma carrière chez France Télécom, qui est quand même une grosse structure.
Oui.
Surtout dans les années 2000, où il y avait pratiquement 200 000 salariés. Donc, j'ai vraiment testé la grosse structure. Et à l'époque, j'étais dans une petite filiale de 1500 personnes. Et j'étais sous-traité par cette petite filiale dans une toute petite boîte. Donc, comme Caroline, j'ai testé aussi la partie portage pour une grosse société, mais sans forcément l'avoir théorisé. Et donc, comme Caroline, moi, c'était en 2011, je travaillais pour un petit cabinet de conseil, et j'en ai eu marre de mon patron. Je me dis, dans le conseil, on a souvent des clients un peu difficiles, mais alors, en plus, quand on rajoute un patron difficile, ça fait beaucoup.
Ça n'existe pas.
Et je me suis dit, allez, j'en ai marre, je me barre et je prends une rupture conventionnelle. Donc, c'était pas. Mais avec derrière les mêmes problématiques de. Au moins, on a une protection sociale pendant 2 ans. Et je me dis, bah, je vais utiliser mon réseau, je vais me vendre à droite, à gauche. Et en fait. Bah, comme Caroline, en fait, on pense souvent à son expertise, mais on ne pense pas forcément à la façon dont on peut la commercialiser. Et en fait, mon premier gros client, qui était France Télécom, qui avait envie de me remettre un peu la main dessus, m'a dit, bah, tiens, on a des missions et ce serait bien qu'on travaille ensemble. Et ils m'ont présenté à ce moment-là bah, des talents, qui était une société référencée, ce qui est très important pour, dans votre choix de société de portage. Donc, c'est une société qui était considérée comme sérieuse, référencée par les achats. Et puis voilà, puis c'était une belle rencontre.
Alors, sur le choix de la société, on y viendra tout à l'heure sans tirer la couverture vers l'une ou vers l'autre société. Vous, en tant que futur indépendant, quand vous avez passé le pas tous les deux, l'idée, c'était quoi? C'était de se dire, allez, je vais gagner moins d'argent dans l'immédiat, mais je serai sécurisée d'un point de vue administratif. L'administratif, vous faisait peur?
Alors, moi, quand je me suis lancé en indépendant, j'ai regardé un petit peu autour de moi les gens qui avaient leur structure. Je suis aussi d'une famille où j'ai beaucoup de professions libérales, de chefs d'entreprise, etc. Mais il était hors de question que je passe 30% de mon temps à faire de la déclaration fiscale, de la comptabilité, gérer les obligations, etc. C'est 30% de temps que d'abord, on ne passe pas chez le client à facturer, et ces 30% de temps, on ne passe pas à faire de la prospection pour préparer les nouvelles missions. Donc moi, le premier point que j'ai vu dans le portage salarial, c'est de dire je vais travailler à temps plein sur les missions. Et quand on parle des ratios de chiffre d'affaires, ça veut dire que bah, forcément, quand on passe 100% de son temps à travailler, même si à la fin, on touche un petit peu moins que dans certains statuts, bah, au final, on gagne beaucoup plus. Et le deuxième point, moi, c'était un statut qui était compatible avec Pôle emploi. Ce qui veut dire que quand je travaille, j'ai des salaires. Quand j'avais des intermissions, parce que c'est aussi un risque, hein, j'avais les allocations chômage qui prenaient le relais. Alors évidemment, pas un niveau suffisant pour toujours maintenir, mais ça permet quand même de pouvoir démarrer son activité. Or, démarrer une activité, bah, moi, ça a pris presque 2 ans pour vraiment avoir non seulement un temps plein, mais aussi un petit peu de projection. Je pense que c'est dans toute vie d'entreprise. Il faut installer son activité, ça prend du temps, on n'a pas toujours 100%. Donc voilà. Pas passer de temps dans l'administratif et puis avoir une sécurité dans les périodes un petit peu de vache maigre. Et je rajouterai, je suis même parti travailler comme salarié détaché, enfin, au Qatar. L'entreprise ne voulait pas que j'ai un statut, enfin, ne voulait pas passer par du portage, du salarié en France, ne voulait pas payer de charges en France. Donc je suis parti, je me suis radié à ce moment-là de Pôle emploi pour une mission à l'étranger. Quand je suis revenu en France, on a tout repris, enfin, on a tout repris là où c'était resté, donc au bout de 10 mois. Et ça veut dire qu'il y a une continuité au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la protection, au niveau de l'administratif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement bénéfique par rapport à un régime où on est contraint, on est un peu esclave de sa structure quand on la crée.
Justement, Caroline, pour rebondir sur ce que vient de dire Cédric, ça permet une relation à votre client plus directe. On va droit à l'essentiel, on va droit au cœur de métier et on ne gère pas le reste ? Ou pas?
Alors,
forcément.
Oui, l'objectif.
Non, c'est peut-être non.
Non, non, mais dans mon cas, vraiment, et peut-être encore un petit peu plus que toi, parce que toi, tu as été aussi salarié ensuite, j'étais focalisée. C'était mon objectif sur l'expertise que je pouvais développer et faire en sorte que cette expertise soit de haut niveau. Donc j'étais focus vraiment là-dessus. Qu'est-ce que je peux rendre comme service à l'entreprise? Et encore une fois, hein, pas vraiment sur la façon de le faire commercialement. Donc c'était important de... Attends, j'ai perdu...
Est-ce que ça permet, plutôt que quand on est en SARL par exemple, est-ce que ça permet de rester concentré sur son expertise?
Je reviens à mes moutons. Donc mon objectif,
restez avec nous, Caroline.
Étant élevant deux enfants, c'était et deux choses. D'avoir la liberté de pouvoir être avec mes enfants sans leur dire, écoutez, j'ai besoin d'un mercredi. Je reviens au client, t'inquiète pas. Si je me perds, enfin,
je suis pas bien inquiète.
Et de pouvoir vendre ou vivre avec environ 10 jours vendus par mois. Donc 10 jours vendus par mois, ça veut dire vendre le prix jour de façon assez importante. Bon, prix jour, il était aux alentours de 1000 euros jour. D'accord ? Ça vous donne un
1000 euros hors taxe ?
Oui, oui, c'est toujours, on parle toujours hors taxe.
On parle
en termes de chiffre d'affaires. Et donc, donc, mon objectif était double. Il était un, je voulais du temps pour mes enfants, mais je voulais quand même gagner ma vie. Je ne voulais pas la gagner. Et donc, je voulais dégager, avoir une expertise suffisamment élevée, importante sur le marché, pour pouvoir vendre un prix jour de consultant, d'expert. Et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et du coup, le rapport avec l'entreprise, puisque je vais quand même répondre à ta question, il est tout autre, parce qu'on demande un expert et on parle, je dirais, on parle des problématiques de l'entreprise, pas de la façon dont ça va se gérer commercialement après. Ensuite, l'autre chose, c'est que, du coup, étant portée, je me suis dit, mais est-ce que c'est compatible avec... Parce que je vous ai parlé d'Alstom, d'Air France, mais je travaille vraiment avec des grands comptes, hein, notamment Hermès, Dior, etc. Donc, est-ce que c'est compatible avec des boîtes comme ça, dans lesquelles arrivent des grosses entreprises, des grosses agences, etc. Eh bien, oui, tout à fait. Et ça ne posait absolument aucun problème. C'est-à-dire que je craignais personnellement, je ne sais pas si c'est des craintes que vous avez, mais enfin, je vous livre la mienne, qui finalement ne s'est pas révélée juste, c'était qu'avoir essayé d'atteindre un niveau d'expertise assez important, est-il compatible avec, en même temps, un statut de entre guillemets, salarié porté ? Ça ne posait aucun problème.
Alors ça, on verra un petit peu tout à l'heure, justement, avec la vision qu'ont les clients potentiels du portage. Petite question complémentaire rapidement, et après, je passe la parole à Olivier, qui est responsable du développement dans la société de portage des talents. La solitude du porté, la solitude de l'indépendant, elle a existé pour vous deux ou pas du tout ? Est-ce que c'était une crainte aussi ?
Enfin, moi, j'étais tellement content de partir et d'être indépendant qu'au début, on ne se pose pas forcément la question. Alors, moi, je n'ai jamais eu l'impression d'être seul, puisque d'abord, j'avais un très bon contact avec la société de portage. Donc, on rejoint aussi une famille. On rejoint des gens, on rejoint aussi un réseau. Il y avait une centaine de consultants chez des talents, donc ça permet aussi, autour d'événements, de se retrouver. Je trouve que c'est aussi important. On n'est pas seul parce qu'on est quand même... alors moi, par mon métier, j'étais un peu moins dans l'expertise et je me vendais plutôt 20 jours par... j'essayais plutôt d'avoir des missions à temps plein, même sur des courtes durées, mais moi, j'étais baigné dans l'entreprise. Et puis, une fois qu'on est chez le client, on apprend forcément par bouche à oreille d'autres missions, etc. Donc, j'ai jamais eu le sentiment d'être seul humainement. En revanche, et ça c'est pour ça que depuis 4 mois, je suis revenu sur un poste salarié. Bon, alors je suis le seul salarié de la structure, donc ça reste quand même... voilà, je ne rejoins pas non plus un cabinet de conseil type Capgemini ou ce genre de choses, mais moi ce qui m'a manqué un petit peu mais ça c'est plus lié à mon métier, c'est que j'étais un peu prisonnier aussi d'un certain type de mission. Et donc là le but c'est de faire un peu comme Caroline, c'est-à-dire remonter un peu plus en expertise, me facturer moins par jour. Donc j'ai un autre projet, et là pour ça j'ai rejoint une petite plateforme composée de un salarié et moi, et surtout beaucoup de freelance et de portée. Pour vraiment, voilà, c'est plus une discussion qui est liée à un cœur de métier qui est vraiment un statut. Donc la solitude, c'est un peu l'écueil, mais moi, j'en ai jamais trop souffert jusqu'à maintenant.
Ça veut dire aussi que du coup, je vous coupe, Caroline, ça veut dire aussi que du coup, ça rentre dans les critères de choix. Quand on choisit sa société de portage, il faut être attentif à l'accompagnement qu'il peut y avoir. Je veux bien que vous passiez le micro, Cédric, du coup. À Olivier, comme tu veux. Et vous allez nous expliquer tout ça, voilà.
Alors, on leur répond pas, nous, alors.
Vous avez trop parlé, Caroline. Qu'est-ce qu'on a à l'écran, là, Olivier?
Eh bien là, en fait, on a, je dirais...
Hop.
Ah, oui, pardon. En fait, on a donc... on parlait un petit peu d'isolement de la personne qui va débuter, je dirais, en propre autonomie, en fait, être autonome. Et donc les sociétés de portage sont là pour vous aider, alors plutôt à 3 niveaux. Donc dans le premier niveau, c'est quand vous allez démarrer en fait votre activité. Donc on propose des ateliers qui ont pour but de structurer votre démarche, c'est-à-dire de constituer votre offre, comment vous allez l'appréhender, quelles sont vos compétences que vous allez mettre en avant, puisque là en fait c'est ce que vous allez vous vendre. Vous vendez, là on ne vend pas à une entreprise, en fait là vous vendez votre expertise. Donc tout ça il faut la structurer pour préparer vos premières démarches commerciales et surtout le fait que vous allez avoir vos premiers clients. Donc ça c'est un premier niveau. Donc on a deux types, on a un atelier vraiment structuré sa démarche pour des gens qui ont déjà un peu l'esprit de l'autonomie, et puis on a une formation, on va dire, là, qui sera à terme certifiante, du reste, comment travailler en portage salarial. Voilà. Donc, comment travailler en portage salarial, ça veut dire comment je vais enchaîner les missions, quel est mon type de prospection en m'appuyant sur la société qui va me porter.
Ça veut dire que la société de portage, si on schématise, elle n'est pas là pour fournir des clients aux consultants à l'indépendant, elle est là pour l'aider à en trouver.
Exactement.
On peut le résumer comme ça.
Voilà, la société de portage, son métier, c'est pas de vous proposer des missions, mais par contre, c'est de vous aider à les décrocher. Voilà, c'est une nuance. C'est vous qui allez chercher vos clients par votre expertise. Nous, on est là simplement pour vous accompagner et vous aider à avoir une clientèle.
Allez-y, Olivier, donnez le micro à Caroline. Je sens que le...
Non, par rapport à la solitude, je réponds quand même par
oui.
rapport à ça.
Et après, on passera aux questions.
Il est clair que, encore une fois, mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'était un haut niveau d'expertise pour travailler peu et gagner plus. Tiens, ça rappelle quelque chose, ça, non? Donc, ça veut dire que quand je vais dans une entreprise, à la différence Cédric, je ne baigne pas dans un collectif de travail. J'arrive souvent, il y a une urgence, il y a un problème, il faut le résoudre. Je suis vraiment quelqu'un qui résout les problèmes dans l'entreprise. Donc cette expertise-là, c'est moi qui la ciselle, et en aucun cas des talents ou une autre société de portage ne peut m'aider à le faire. Donc si vous décidez d'avoir une expertise, c'est à vous de la construire, alors avec des amis, un collectif, d'autres personnes, mais ce n'est pas la société de portage qui est en mesure de pouvoir le faire pour vous. Tout au plus, elle peut me donner un avis, mais c'est tout. En revanche, là où la société de portage peut aider et du coup me sortir de cet éventuellement isolement de la créativité de cette expertise, c'est qu'elle propose, comme et même mieux qu'une société en général, par exemple, du coaching, être coaché pour savoir vendre sa prestation. Ça, on ne l'a pas si on est complètement indépendant. Et ça, la société de portage peut le permettre. C'est très, très important. Maintenant, il est clair que, effectivement, comme ça vient d'être évoqué, la société de portage ne vous apporte pas de business. C'est à vous, experts, professionnels, d'aller au feu et d'aller au front, ou comme vous voulez, pour aller trouver des clients. C'est clair. Là où, en revanche, la société de portage est une aide, c'est qu'il y a un très très gros travail par les commerciaux, en tout cas chez les talents, pour être référencés, pour que la société de portage
chez soit
référencée.
Chez les talents et chez les autres sociétés de portage
oui,
aussi. Hein.
Oui, mais je les connais. Oui, mais enfin bon, je ne les connais pas les autres, donc oui, je parle de ce que je connais. Donc pour être référencés chez des gros clients. Ce qui veut dire que si demain, vous décidez de travailler pour Orange, par exemple, des talents est référencé. Donc le fait même, si vous, en tant qu'expert, vous n'êtes pas référencé, mais que votre expertise les intéresse pour répondre à une problématique précise, le fait même que contractuellement, ça va passer par la société de portage, eh bien, va vous faciliter la tâche. Voyez la différence, hein. Vous cherchez votre business, vous montez votre expertise, vous cherchez votre business, mais la société de portage, et encore une fois, j'insiste, parce qu'il y a société de portage, peut vous aider, un, pour vous coacher à savoir vendre ce business-là, ou en ouvrant des portes au sein des entreprises pour être référencé. Et ça, je peux vous dire, le référencement, quand on est petitot, même si on a une très grosse expertise, c'est très très important.
Alors au-delà du référencement, parce qu'on l'oublie aussi, mais c'est par exemple le paiement. Donc pour avoir travaillé beaucoup pour Orange, souvent, paye très tard. Et je vois, là en ce moment, je travaille avec des consultants indépendants, ils doivent se battre avec leur trésorerie. Des fois, c'est 90 jours de trésorerie qu'on doit gérer. C'est énorme. Et ça aussi, c'est le gros atout du portage salarial. C'est que moi, une fois que mon client m'a dit, ben, OK, on y va, je file le bébé à ma société de portage et eux, ils vont me faire des fiches de salaire qui correspondent aux jours réellement travaillés. Savoir s'ils sont payés à 90 jours, à 120 jours, etc., ça n'a jamais été un sujet ni de discussion avec des talents, c'est eux qui le gèrent, mais ça n'a jamais parasité même la relation avec le client. Ce qui est aussi très important, parce que des fois, quand on a des clients qui sont empêtrés dans leurs outils d'achat, de règlement, de facturation, etc., bah, quand on commence à aborder ces questions-là, ce n'est pas toujours très agréable. Bah, là, c'est oui, non, mais t'inquiète pas, des talents verront avec ton service achat, puis travaillons sur ce point-là. Et donc, tout ce qui est référencement, donc pour pouvoir être administrativement compatible avec la mission, tout ce qui est le paiement, le suivi de facturation, tout l'administratif, les déclarations, alors ça fait là, tout ça, on n'a absolument pas à s'en occuper. Et c'est quelque chose de vraiment... Il faut le voir comme un investissement aussi. On parlait encore une fois du coût du portage. C'est que tout ce temps-là, toute cette énergie qu'on consacre à ça, gérer sa trésorerie, moi, je vois beaucoup de gens qui sont en stress de ça. Bah, on est souvent suffisamment stressé par l'intervention et la mission qu'on doit mener. Bah, quand on n'a pas le stress de la trésorerie, voire même des fois, moi, j'ai eu l'occasion de demander des avances de trésorerie à la société, bah, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très... moi, je trouve que ça a vraiment un prix. Enfin, ça n'a pas de prix. Ça a beaucoup de valeur.
Ça se paye.
Ça se paye un petit peu, mais pas... Enfin, voilà, mais il faut le prendre en compte. C'est un investissement pour moi.
Alors, je vous coupe. On va se faire un premier... Non, ça suffit, Caroline.
C'est important.
Après.
Non, c'est important. Il y a même des sociétés... Non, mais il y a même des clients, je vais vous dire. Ah, oui, il y a même des clients... Bon, on est pas exact. Pour ne pas le nommer, qui était Hermès, il me dit que nous, on est content de travailler avec toi et que tu sois dans une société de portage parce qu'on a honte, on a des délais, je parle de ça, il y a 7 ans, ils ont changé, des délais de paiement tellement longs qu'on est malheureux pour nos consultants. Donc là, on sait que tu es payé à la fin du mois, on est tranquille et on ne parle plus de ça. C'est quand même,
okay.
C'est quand même important.
Stop. Premier temps de questions, profitez-en. Vous avez des consultants, donc on a bien compris hein, qu'ils l'ont vécu de l'intérieur un peu ce mode de fonctionnement là. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Monsieur, bougez pas, il y a une charmante jeune fille qui s'approche avec un micro, regardez.
Bonjour, merci pour cet atelier qui est très intéressant. Une question concernant l'international. Mes clients, bon, je suis consultant conseiller entreprise, donc mes clients internationaux seront majoritairement aux États-Unis, en Asie, en dehors de l'Europe. Donc dans ce cas-là, est-ce que le portage salarial gère cette problématique tout simplement de me transformer en de transformer une mission par une société étrangère en un salarié français. Voilà.
Yves.
Bien sûr. Oui, évidemment, le portage salarial s'adapte aux missions à l'international dans la mesure, on revient toujours là, au point de départ, dans la mesure où vous souhaitez garder un statut de salarié en France. Voilà. Donc pour cet exercice-là et pour conserver au maximum de... Voilà, c'est un statut détaché, tout simplement, voilà, qui se met en œuvre. Statut détaché, c'est un statut de la sécurité sociale qui vous permet de préserver dans le pays d'accueil vos garanties françaises. Voilà. Donc évidemment, le portage salarial s'adapte dans ce contexte-là. Donc ça, c'est la partie gestion. C'est la partie de la relation avec vos clients. Historiquement, les clients anglo-saxons sont des clients qui sont complexes au départ, mais bien après. Voilà. Bien après, ça veut dire des délais de paiement dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle 10 jours. Donc c'est pas du tout la même chose. Par contre, les contrats, il faut vraiment bien les lire. Et voilà. Et donc là, il faut faire attention à ça.
Impeccable. Une autre question ?
Bien sûr, bien sûr. Oui, pardon.
Sans être physiquement à l'étranger.
Oui. Oui, pardon. Du coup, si vous avez des clients à l'étranger et vous travaillez en France, oui, zéro problème. Bien sûr, bien, bien.
Mademoiselle, on aura un deuxième temps de questions après aussi concernant justement ces fameux clients.
On ne m'a pas appelée mademoiselle depuis 30 ans.
Merci. Madame.
j'ai également une question qui concerne l'international, mais un peu moins éloignée. Donc, un cas concret, j'ai une mission de 3 mois pour une entreprise de Londres, donc Union européenne. Quel est mon intérêt de passer par le portage salarial ? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de statut, donc je n'ai pas ma propre société. Quel est mon intérêt de passer par le portage salarial versus être salarié directement par cette société anglaise qui n'a pas aujourd'hui de filiale en France ? Alors, que je vais leur créer, peut-être, si tout se passe bien.
On vous le souhaite, si vous avez envie, si c'est votre souhait. Pareil, bah, allez-y, ouais. Cédric.
Enfin, alors, moi, ça se présentait aussi. Je dirais que c'est aussi, encore une fois, c'est de la simplicité, et c'est le temps que vous passez. C'est-à-dire que si vous décidez de devenir salarié d'un pays étranger, bah, vous allez avoir aussi beaucoup de papiers à remplir au niveau de la sécurité sociale, au niveau de Pôle emploi, au niveau des impôts. C'est toute cette complexité que vous aurez, comme si vous partiez travailler à l'étranger. Bah avec un portage salarial, dans le cas d'une mission de 3 mois, parce qu'après vous ne savez pas ce qui se passe, hein, quand on décide de partir en expatriation, on peut se dire bon bah je prends une tranche de vie de 2-3 ans et je passe du temps à faire tous ces processus administratifs. Quand c'est pour 3 mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer beaucoup d'énergie et avec aussi tous les risques, hein, parce que l'administration française, tout fonctionne très bien quand vous rentrez dans les cases. À partir du moment où vous commencez à vouloir un petit peu bouger, etc., c'est là que ça devient compliqué. Votre dossier, ils l'ont à traiter, il est perdu, vous allez passer des heures au téléphone là-dessus. Et donc, pour 3 mois de mission à l'étranger, bah, des fois, c'est un peu plus simple de se dire, on reste un petit peu dans le process. Et aujourd'hui, et si on en discutait encore ce matin ensemble, c'est aujourd'hui, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la sécurité sociale, ils ont des process administratifs informatisés extrêmement fluide, rapide, et pour 3 mois de mission à l'étranger, c'est un risque à prendre que de dire je mets tout ça par terre, et quand je reviens au bout de ces 3 mois-là, il faut que je redémarre toutes mes démarches pour pouvoir à nouveau être bien pris en charge, pris en compte.
À nouveau avoir une existence.
Avoir une existence. Donc voilà, après, je pense que le portage salarial dans ces conditions-là, c'est pour des gens qui ont vraiment envie de vivre un peu qui ont envie de vivre leur vie, qui ont envie de poser un mercredi s'ils ont envie de poser un mercredi. Ça, c'est vrai que c'est aussi très agréable. C'est-à-dire avoir une vie d'indépendant, mais pas passer et sans en avoir les inconvénients au niveau administratif, au niveau social.
Dernière petite question de cette partie-là. Oui, allez-y.
Les délais de paiement, malheureusement, sont de l'administration française. C'est-à-dire, si vous avez une mission de 2-3 mois et que vous devez être prêt demain, l'administration française ne sera pas prête demain. Donc votre mission de 3 mois, vous avez 3 mois à 6 mois pour être prêt au niveau administration française.
Après, la question de la dame aussi, un statut de salarié par l'entreprise anglaise.
Mais c'est pour ça que je vous dis, mais aussi attention, parce que quand on rentre dans un système comme ça, au-delà de vous mettre au courant de la culture, je ne sais pas si vous la connaissez, donc au niveau administratif, il y a le poids, mais il y a aussi connaître, donc on rentre dans un nouveau système. Mais par ailleurs, si vous faites ça en France, les délais de réponse de l'administration française, si vous avez besoin d'être opérationnel demain, vous ne le serez pas au niveau administratif français.
Pour chiffrer ça, je suis parti 10 mois au Qatar. Quand je suis revenu au bout de mes 10 mois, au niveau de la sécurité sociale, ils n'avaient même pas remarqué que j'étais parti. Donc ça fonctionne par trimestre. Donc ça fonctionne par trimestre. Si vous êtes même un jour dans le trimestre sur le sol français, vous n'avez même pas besoin de sortir de la sécurité sociale. Vous êtes encore considéré comme affilié à la sécurité sociale. Donc vraiment, pour 3 mois, je trouve que ça ne vaut pas le coup.
Je vous arrête là. On se fait une petite pause dans les questions et on va se placer un petit peu du côté du client, donc du côté que le consultant va aller voir pour lui prodiguer son expertise. Et alors pour ça, je vais demander donc à Béatrice Noyère de prendre le micro et de prendre la parole. Bonjour Béatrice, on ne s'est pas vraiment salué encore.
Bonjour et bonjour à tous.
Oui. Alors expliquez-nous, vous avez, aujourd'hui là, vous intervenez en quelle qualité? Vous représentez communication et entreprise, c'est quoi?
Alors, communication et entreprise rassemble tous les professionnels de la communication en France. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la communication est un des grands domaines dans lesquels le portage salarial est très actif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indépendants dans la communication, de consultants, de journalistes indépendants qui passent par le portage salarial. Donc à ce titre-là, alors communication et entreprise, pour finir de présenter l'association, c'est une association qui a été créée en 1947, qui est aujourd'hui l'association la plus importante du secteur de la communication, avec 1700 adhérents. Et son intérêt, c'est qu'elle représente tous les adhérents, quel que soit leur statut. Donc on va y trouver quoi? On va y trouver les directeurs de la communication des plus grosses entreprises françaises, mais aussi des petites, des organismes publics, des agences de communication, de publicité, et aussi, et c'est là qu'est son intérêt notamment aujourd'hui, des indépendants et des étudiants. Voilà. Donc, en fait, elle couvre tous les métiers et tous les statuts de la communication en France.
Et du coup, vous, au sein de l'association, vous êtes amené parfois à parler du portage ou à le recommander?
Alors, absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que Communication et Entreprise a noué un partenariat commercial avec des talents. Mais de manière plus large, c'est un statut autour duquel on doit faire énormément de pédagogie parce qu'il est peu connu. Alors, il est de plus en plus connu par les indépendants, la preuve en est que vous êtes nombreux ici aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne le connaissent pas. Alors, dans les agences, c'est un peu différent parce que les agences emploient énormément d'indépendants et donc, je dirais qu'ils se sont formés sur le tas et donc, en ayant de plus en plus de consultants indépendants en portage salarié, ils ont découvert sur le terrain ce que c'était, mais dans les entreprises, c'est encore un statut
alors,
qui est assez peu connu.
Et paradoxalement, ce n'est pas un statut qui est récent pourtant.
Alors non, ce n'est pas un statut récent, je ne sais pas exactement à quand il remonte.
On va dire 2008 pour l'entrée dans le Code du Travail, et le portage salarial existe depuis 30 ans.
Allez, 2008 pour l'entrée dans le Code du Travail et le portage salarial existe depuis plus longtemps. Ça veut dire aussi que le consultant doit faire preuve de pédagogie auprès de ses clients potentiels en disant, moi, voilà, je fonctionne comme ça.
Alors, effectivement, le client doit faire preuve de pédagogie, mais nous, l'intérêt, et c'est pour ça qu'on met en avant le portage salarial, c'est que, comme on a aussi des adhérents, comme on a énormément d'adhérents entreprises et agences, ce travail de pédagogie, on le fait. C'est-à-dire que nous, on a des tables rondes, des ateliers, parce qu'on anime aussi la communauté, et on organise des ateliers et des tables rondes autour du portage pour expliquer ce que c'est à des entreprises notamment.
Et alors quel intérêt l'entreprise a à faire appel à un consultant qui passe par une boîte de portage?
Alors,
c'est plus rapide, c'est...
Alors justement, il y a trois types d'avantages en fait. Comme le disait Caroline tout à l'heure, déjà c'est beaucoup plus simple parce que pour une entreprise qui décide de faire appel à un indépendant, aujourd'hui, alors c'était pas le cas il y a 10 ans, mais c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, le premier barrage c'est le service achat. Oui, mais alors, il est bien gentil, votre expert, il est peut-être formidable, mais moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est solide. Voilà, quelle preuve vous me donnez que la prestation qu'il vous affiche et qui est probablement formidable va aller jusqu'à son terme, etc. Et là, intervient l'intérêt de la société de portage, c'est qu'aujourd'hui, il y a 200 acteurs du portage salarial. Hein. La plupart sont référencés dans les entreprises pour lesquelles vous êtes amené à intervenir. Et du coup, le commanditaire, donc votre client, l'entreprise, quand il va se tourner vers son service achat, eh bien, il va leur dire, bah, écoute, c'est très simple, mon consultant, il travaille avec telle société de portage, va donc vérifier si elle n'est pas référencée. Et si elle ne l'est pas, c'est très simple de la faire référencer, plus simple que de faire référencer un indépendant. Et si elle l'est, bah, après,
C'est plus simple pour une entreprise de parler à une autre entreprise pour ces questions administratives et financières.
Tout à fait. Et puis, quand on veut se faire référencer dans un service achat, il y a des garanties à apporter sur le plan de l'ancienneté. Alors, depuis quand vous existez, quel est votre chiffre d'affaires.
enfin des tas de choses qui sont qui peuvent en plus mettre bon, qui vont prendre énormément de temps à l'indépendant et puis qui peuvent quelque part presque le culpabiliser parce qu'il va avoir l'impression d'être tout petit face parfois à un acteur énorme.
Oui, mais justement, alors on ne l'a pas encore évoqué et ce sera un petit peu trop juste, je vous invite à kidnapper nos témoins après la conférence si vous avez d'autres questions à leur poser. Oh bah j'ai perdu le fil. Ah, c'est de votre faute, Caroline. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, les consultants qui peuvent être tout seuls face à une très grosse entreprise, on casse ce rapport hiérarchique quand on passe par le portage. On est entre professionnels, vous l'avez senti, vous l'avez vécu, vous, ou pas forcément?
Oui, oui, clairement. On parle d'expert, enfin expert si on s'adresse à son client, oui, oui, très clairement.
Je dirais que sur le portage salarial, c'est nous, on est administrativement un salarié, mais aux yeux de l'entreprise, on est un consultant, un expert, un freelance, enfin tous les termes qu'il a envie d'avoir, mais il s'adresse quand même à... il ne s'adresse pas à un salarié, il s'adresse à une compétence. Nous, on est salarié pour l'administration, on est salarié pour les banques. Quand il faut renégocier son prêt immobilier, portage salarial va aussi intervenir. Donc, personnellement, on est salarié, mais quand on est en clientèle, on est un professionnel, on est un indépendant, et on parle, je ne dirais pas d'égal à égal, parce qu'on est plutôt client et prestataire, mais oui, on est entre professionnels, on n'est pas dans un lien de subordination.
Béatrice, vous vouliez rajouter.
J'avais pas terminé tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait trois avantages pour une entreprise de passer par le portage salarial. Donc, il y a la simplicité, le fait que souvent la société de portage est référencée et qu'une fois qu'elle est référencée, c'est très très simple de travailler avec elle et avec l'indépendant qui la salarie. Il y a la sécurité, alors ça va avec, c'est-à-dire que le fait que derrière le consultant, il y a une structure avec un chiffre d'affaires, une trésorerie, et que toute prestation est sécurisée par un contrat. Ça rassure l'entreprise. Et puis le troisième avantage pour une entreprise, c'est aussi le réseau. C'est-à-dire que dans la société de portage, il n'y a pas juste un consultant, il y en a, vous êtes je crois une centaine, mais voilà, il y a souvent beaucoup, beaucoup d'indépendants, et parfois dans des domaines qui peuvent aussi intéresser l'entreprise, et donc c'est le réseau. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, Caroline et Cédric, à vous, mais... Quand la demande sort un peu du champ d'expertise du consultant, il peut dire « Ah, mais attendez, dans ma société de portage, il y a quelqu'un qui pourrait travailler avec moi en binôme. » Voilà. Et ça, c'est intéressant pour l'entreprise aussi.
On se réserve le temps qui reste pour des questions. Allez-y, profitez-en. Monsieur, j'ose plus dire jeune homme ou mademoiselle maintenant. Je vais me contenter de monsieur. Non, là, c'est monsieur, là. Je vous écoute.
Oui, bonjour. Je voulais vous demander si, là vous parlez beaucoup de grands groupes qui font appel au portage, si on est dans des missions qui sont peut-être plus longues sur plusieurs années, où on partage une compétence entre PME, est-ce que ça c'est compatible avec le portage salarial?
Yves ou Xavier, ou Olivier?
Bien sûr. Effectivement, ce qui a été mis en avant aujourd'hui, c'est un des services forts du fait de passer par une structure vis-à-vis des us et coutumes des clients aujourd'hui. Mais de la même façon, si on revient sur les PME, PMI, qui sont effectivement des clients hyper importants pour tous les consultants aujourd'hui, la relation est sans doute moins compliquée. Il faut savoir que même une PME, PMI aujourd'hui, elle valide le prestataire ou du moins la structure avec laquelle elle va travailler. Voilà. Mais ça, évidemment, l'exercice se met de la même façon... avec des PME, PMI, avec plusieurs PME, PMI, il n'y a pas de
Donc problème. Avoir un consultant qui est multi-employeur, ce n'est pas un souci sur un mois?
Et non, c'est le principe, pardon.
Ah, c'est le principe, tout à fait. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous dites pour les PME, je vous disais tout à l'heure que chez Communication Entreprise, une partie de nos adhérents étaient des agences. Les agences de communication, il y en a où il y a 3 ou 4 salariés. Hein. Et justement, parce qu'ils sont peu nombreux, ils font énormément appel à des indépendants. Voilà. Et ça les rassure de savoir que l'indépendant en question, il a d'autres sources de revenus et d'autres employeurs. Enfin, entre guillemets, pas vraiment des employeurs, mais d'autres clients, et qu'il a un salaire. Ça le rassure parce que du coup, ça le dégage d'une partie de sa responsabilité.
Non, Cédric, je vous interdis de répondre.
Je dirais si.
Mais
si,
c'est
si,
pas possible, vous deux, là.
C'est souvent, moi, plutôt l'inverse qu'on rencontre, c'est qu'en gros, on a du mal à faire comprendre à notre client qu'on n'est pas que pour lui, hein, on n'est pas à 100%, et que même s'il nous achète un ou deux jours par semaine, bah, il faut qu'on le partage, il faut qu'il nous partage avec, avec d'autres. Donc, moi, j'ai plutôt vécu le côté, bah, je suis multi-employeur, on aime ça, parce que ça permet un petit peu aussi de prendre du recul, de ne pas toujours être complètement submergé par les problèmes de la structure pour laquelle on travaille. Et voilà, c'est plutôt l'inverse en fait qu'il faut faire, enfin sur lequel il faut convaincre, c'est d'arriver à dire oui, en travaillant deux jours par semaine pour vous, je suis capable d'être efficace et vous n'avez pas besoin de m'avoir cinq jours par semaine, de 8h à 18h dans vos bureaux pour avoir l'impression que je travaille pour vous.
C'est bien parce que c'est vous, Béatrice. Et après, ah, vous avez déjà pris la parole tout à l'heure.
Alors, pour aller, pour rebondir sur ce que vient de dire Cédric, ce travail de pédagogie, il peut être fait aussi par la société de portage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand le consultant est à court d'arguments, entre guillemets, il peut très bien dire à la société de portage, écoutez, là, il faudrait lui expliquer ce que c'est que le portage salarial, parce que moi, j'y arrive pas. Il a l'impression que je travaille que pour lui. Est-ce que vous pourriez justement lui dire que, enfin, vous voyez, voilà, dans ce domaine ou dans un autre, hein, mais ça, c'est l'avantage.
Je vois que l'heure tourne. Dernière question, et puis après, promis, vous pourrez discuter plus intimement, on va dire, avec tous les gens qu'il y a là. Est-ce que vous avez une dernière question? Alors, peut-être, en fait, je vais demander à votre voisine en rouge et noir. Mais je vous aime bien quand même. On vous écoute, madame.
Bonjour. Moi, je fais partie de... Je vais y arriver. Je suis salariée aujourd'hui dans une entreprise que, bien sûr, j'ai envie de quitter, sinon je ne serai pas là. Je travaille dans l'informatique et je me demandais si, parce que le portage salarial, c'est clairement la solution qui m'interpelle le plus pour la suite, en ce qui me concerne, mais est-ce qu'il faut choisir, est-ce que les sociétés de portage prennent des spécialités, par exemple spécialisées en informatique, spécialisées en communication, spécialisées en je ne sais quel autre métier, ou sont pluridisciplinaires, et à ce moment-là, est-ce que, on doit être particulièrement attentif à la société qu'on va choisir.
On choisit. Olivier.
Oui, ça c'est une très 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 bonne question. En fait, je pense que comme on travaille beaucoup en réseau, il est important que le choix de votre société de portage salarial soit dans le domaine, sur lequel vous intervenez. Donc oui, je pense que c'est un des critères pour choisir sa société. Alors, je ne vais pas faire de pub pour des talents.
Non,
mais
non, non.
Nous sommes
non.
dans l'informatique, dans l'ingénierie.
Voilà, mais ça, voilà, ça rentre.
Ça fait partie d'un critère.
Ça rentre dans les critères de choix. C'est bien parce que c'est vous, parce qu'on est en retard, là. Il faut qu'on termine.
Ça tombe bien, ça a trait à ce qu'on avait parlé il y a juste 2 minutes. J'ai un petit doute sur l'importance, lors d'une démarche prospective auprès de sociétés, sur le temps qu'on accorde ou sur la nécessité à accorder justement sur notre statut. C'est-à-dire, on est consultant, on est une expertise, donc on arrive. Moi, je suis plus pour défendre ce que vous disiez, c'est-à-dire, voilà mon cœur de métier, voilà ce que je peux faire pour vous, etc. Je comprends qu'on doit rassurer l'entreprise par rapport à des auto-entrepreneurs, etc., qui, bon, sont des formats qui n'ont pas fait leurs preuves. Mais en même temps, je me demande quelle est l'importance lors d'un entretien court que l'on doit accorder, et je dis bien dans une démarche de présentation, parce qu'à partir du moment où on nous connaît après plusieurs missions, on ne posera plus la question sur le portage salarial. Non. Mais lors de premiers entretiens d'entreprise, doit-on réellement parler de la société qui se cache derrière? Pour moi, non. Et je vous ai entendu parler dans le sens où c'est rassurant, je comprends. En même temps, en quoi ça concerne la société? Moi, je la rassure en disant, vous savez quoi? Vous signez le contrat, terminé. Non, mais
alors, réponse de Béatrice et après,
il y a deux niveaux de réassurance. Le premier, c'est effectivement vous. Et c'est vous la principale valeur ajoutée, c'est votre expertise, c'est l'offre que vous allez leur proposer, c'est la collaboration que vous leur offrez avec tous ces avantages. Mais vient ensuite, à un moment donné, la question de « Ok, on est séduit, on bosse ensemble, on fait comment ?»« Oh ben moi, j'ai une solution, toc, voilà, c'est tout. » Et ça prend 3 minutes ou plus si l'entreprise en question ne connaît pas le portage et qu'il faut lui expliquer.
Je vous arrête. Non, je vous coupe la parole. Non. On va se faire taper sur les doigts. Il y a des gens après.
Chez vos clients, des fois, la personne avec qui vous allez travailler, c'est pas celle qui va valider, négocier. Et ça peut faire peur pour un manager qui n'a pas forcément la main sur l'ensemble de son budget, de devoir aussi se pencher sur l'administratif de son entreprise. Il y en a beaucoup qui sont des phobiques administratifs. Et quand on arrive en leur disant, alors j'ai un statut compliqué, etc. Voilà, ça peut être un frein. Quand on leur dit c'est pas un souci, on y va, ça facilite le oui. Mais ça prend 3 secondes.
Et pour répondre à votre question, madame, les sociétés de portage, bien souvent, en tout cas celles dans lesquelles nous avons travaillé, rassemblent des compétences très variées. Et c'est pour tout ça qu'il faudrait. Et un petit mot pour conclure. Il y a une chose qu'on a dite, parce que nous, on a été gâtés. Mais toutes les sociétés de portage ne le font pas. Nous avons dit, à la fin du mois, on est payé au prorata des jours que l'on a vendus. Mais toutes les sociétés de portage ne le font pas. Ça, c'est une avance. La société de portage va être payée 3 ou 4 mois plus tard, alors que nous allons avoir une avance. Et ça, c'est très, très important. Quand vous choisissez une société de portage, assurez-vous bien que vous avez ce service-là. Ce n'est pas généraliste. D'accord ?
Ce sera le mot de la fin.